la matinale de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ses albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
On est sur le 93.9 FM. Le 9 décembre, l'Assemblée nationale se prépare à voter le projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026. Un moment charnière pour le pays, mais surtout un test de survie politique pour le Premier ministre Sébastien Lecornu. Depuis plusieurs jours, les députés ont approuvé la partie recette du budget avec un compromis sur la hausse de la CSG et l'abandon d'une hausse des restes à charge pour les assurés. Mais la partie consacrée aux dépenses et l'ensemble final du budget sont toujours, eux, contestés. Le gouvernement met en garde. Sans adoption, la Sécu pourrait plonger dans un déficit abyssal jusqu'à 30 milliards d'euros l'an prochain. Pour Sébastien Lecornu, c'est plus qu'un texte de loi, c'est un enjeu de crédibilité. Il a renoncé à recourir au 49-3, préférant la négociation et la persuasion, misant sur une alliance précaire avec le centre et les socialistes pour obtenir l'aval d'une assemblée qui est fragmentée. Un rejet du budget serait un signal dramatique, une incapacité à garantir le financement de la protection sociale, une crise économique et sociale et surtout la fragilisation de l'exécutif. Certains évoquent déjà qu'un tel échec pourrait pousser le Premier ministre à la démission. À l'inverse, un vote favorable offrirait à Lecornu un répit et la possibilité pour le gouvernement de redorer son image avant les échéances électorales. Mais le chemin reste semé d'incertitudes, de nombreuses dissidences, des tensions internes et même un Parlement divisé. Le 9 décembre s'annonce donc comme un jour déterminant, non seulement pour la santé financière de la Sécu, mais pour l'équilibre politique tout entier. Au programme de cette matinale réalisée par David, Fabien nous parlera des marchés de Noël. En fin d'émission, alors restez avec nous. Nous parlerons également d'Enquête d'Histoire, une association écrivant des articles historiques qui sont par la suite publiés en ligne autour d'un Zoom mené par Vladimir. Mais tout de suite, nous parlerons de notre rapport à la vidéosurveillance à travers le livre « L'image indomptée, animaux et surveillance » avec Pauline Chasseret-Peraldi qui est l'invitée de Farah.
La matinale de 19h, 93.9 FM.
Salut Farah, je te laisse pas la parole.
Eh bien aujourd'hui, comme tu l'as dit, on va parler de technosurveillance. Alors Pauline Chasseret-Peraldi, vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Merci d'être là.
Bonsoir et merci de m'avoir invitée.
Votre champ de recherche se situe dans l'intersection des médias, des études visuelles et de l'anthropologie. Alors ça fait quand même un paquet de choses à rechercher et étudier. Ça veut dire quoi exactement ?
Alors, ça veut dire que déjà, c'est peut-être l'histoire d'un long parcours et aussi peut-être que c'est lié à des objets qui m'ont intéressée et qui sont à l'intersection aussi des disciplines. C'est-à-dire que si je reviens un petit peu quand même sur ma formation, moi, j'ai été formée à l'étude des médias informatisés. Donc, m'intéresser à la façon dont ça recomposait les pratiques d'écriture et de lecture dans la société. Et ça a été un espace privilégié pour enquêter sur des objets qui m'intriguaient, à savoir en premier Google Maps et Google Street View, où je me suis demandé, tiens, c'est intriguant, cette image qui surgit dans nos vies et qui commence en fait à s'imposer un peu partout. C'est quoi cette entreprise qui va enregistrer nos paysages, les environnements dans lesquels on vit et qui va devenir progressivement hégémonique. Et donc ça, on va dire que c'est la partie un peu études visuelles aussi, parce qu'à cette époque, donc même autour des années 2010, il y a beaucoup de projets visuels, d'artistes qui utilisent en fait cette imagerie et où je me suis demandé en fait même qu'est-ce que ça faisait en termes d'écosystème des images à partir du moment où un modèle de représentation commençait à dominer, on va dire, et à standardiser en fait nos représentations. Et puis on va dire que l'autre dimension peut être aussi anthropologique, donc il y a tant en fait la relation au paysage, où ça on peut le replacer dans des temps plus longs, de comment on fait société aussi avec nos environnements, et prêter aussi attention à des histoires singulières. Et donc c'est là où les animaux émergent dans ma façon de questionner aussi donc, ces infrastructures de technosurveillance, mais en me disant que face à des dispositifs, des outils qui standardisent fortement, peut-être qu'en prêtant à des petits signes, à des petites histoires singulières qui viennent piquer l'image, on pourra réussir à déconstruire un petit peu, à comprendre mieux comment fonctionnent ces machines, souvent comparées à des boîtes noires.
Alors, vaste programme. Vous venez nous parler de cet essai, l'image indomptée, animaux et technosurveillance. C'est votre premier?
Oui, on peut dire ça comme ça. Oui. En ouvrage signé solo, oui.
Bah, félicitations déjà.
Merci.
C'est le fruit d'un travail de recherche de plus de 10 ans. Et alors, vous parlez de Google Street View. Donc, c'est en 2007 que ce géant voit le jour. Il y a aussi la voiture Google qu'on connaît bien. Et l'histoire, c'est de cartographier des kilomètres. De nous cartographier aussi parce qu'on apparaît. Je pense qu'on est beaucoup quand même à se dire, est-ce qu'on voit ma maison? Est-ce que on voit une tête qui passe? Il y a quand même des anecdotes aussi de meurtres élucidés grâce à Google Street View. Donc avec tout ça, déjà, quelle est la place de l'image à travers ce spectre des technosurveillances dans la société aujourd'hui?
Alors ça aussi, c'est un vaste programme comme question. Mais donc si on repart, on va dire déjà de cette question de comment ça se fait que cette pratique même de se chercher dans un outil en ligne, d'essayer de retrouver des traces de soi, se soit un peu généralisée. Alors déjà, en fait, pour se retrouver, il faut qu'il y ait eu une grosse base de données constituée pour qu'on ait une chance, on va dire si on constitue comme une chance, de pouvoir voir notre maison. Je pense qu'aujourd'hui, en tout cas... en Europe, pour sûr, quoique en Allemagne c'est un peu plus compliqué, mais on a à peu près l'assurance de retrouver notre maison, en tout cas. Nous-mêmes, c'est un peu plus de l'ordre de l'aléa, mais a priori, beaucoup, beaucoup des rues sont cartographiées, représentées et enregistrées aussi photographiquement dans le dispositif. Sur ce que ça raconte ensuite, plus largement dans la société avec l'image, il faut toujours le remettre en fait, de façon contextuelle avec un déploiement assez massif des médias informatisés, des réseaux sociaux, où là forcément la culture de l'image a été réorganisée en partie, aussi avec celle des jeux vidéo, parce que cette image en tout cas de Google Street View, elle est présente dans un jeu assez connu qui est GeoGuessr, et qui est maintenant un jeu pratiqué mondialement, avec un rapport de fascination sur la faculté de certains, de certaines, de retrouver en un micro-temps une localisation à partir d'un bout de terre et d'un brin d'herbe. Donc ça dit quelque chose aussi sur quels sont les signes qui sont présents et tous les indices à disposition. Sur aussi un rapport de scrutation, on va dire, qui là en fait montre l'ambivalence aussi de qu'est-ce qu'on cherche à partir de données disponibles. Et donc qu'est-ce que c'est que la surveillance? Vous avez parlé d'un meurtre, donc il y a effectivement, on va dire, un rapport policier premier qui est l'élucidation de l'enquête d'un meurtre. Et puis en fait, on peut l'étendre à la question des contre-enquêtes, donc cette question de l'open source intelligence, qui, donc ça c'est aussi des méthodes d'enquête qui se basent sur toutes les données déjà disponibles en ligne. Et en fait, paradoxalement, on peut tisser un lien de GeoGuessr à la question de l'enquête policière institutionnelle, à celle des contre-enquêtes, parfois journalistiques, et qui vont jusqu'en fait à des procès, hein, enfin à élucider véritablement, notamment sur des cours de justice internationale.
Donc ça, c'est quand même le particulier, qu'il soit journaliste ou même monsieur, madame, tout le monde, qui peut, à travers des compétences de recherche et des connaissances d'outils,
tout à fait,
pouvoir récolter des preuves. Ça, c'est quand même nouveau.
Ça, en tout cas, c'est une organisation de disponibilité. En fait, là, peut-être ce qui est nouveau, c'est aussi de se rendre compte de tous les signes et les éléments qui sont disponibles à portée de main. Par contre, aussi, ça veut dire que c'est à portée de main, mais relative. C'est-à-dire qu'il faut aussi savoir les chercher. Et qu'est-ce que l'on en fait? Donc, ça dépend, en fait, des motifs. Mais donc, ça veut dire que, globalement, il y a eu une extraction, on va dire assez massive, compilée, archivée, mise en disponibilité, un peu éparpillée, où en fait, parfois on banalise, souvent, enfin, il y a eu un adage qui a quand même beaucoup accompagné le développement même de la Silicon Valley, et notamment de Google, hein, c'est que si vous n'avez rien à cacher, vous n'avez rien à craindre. Mais en fait, elle est quand même très très ambivalente, cette formule, parce qu'on sait très bien qu'il y a un arbitraire du pouvoir, en fait, et de la question de l'arbitraire de la personne qui va s'en saisir, et quelle va être en fait la finalité. Parce qu'en fait, c'est pas tant qu'on a besoin de cacher quelque chose, c'est en fait à quelle intention ces données peuvent être utilisées contre, pour ou pour nous.
Et justement, parce que là, on parlait tout à l'heure un peu des pendants heureux, on va dire, de ces technosurveillances, que ce soit de l'enquête, que ce soit de l'open source. Mais donc là, il y a aussi le pendant plus malheureux, qui est l'arbitraire du pouvoir et la culture du pouvoir. Et en quoi on peut prêter attention, en quoi on peut se montrer vigilant?
Alors, disons que... Alors, déjà, je vais juste renvoyer à plusieurs éléments, parce que, en fait, sur cette question notamment de l'open source et de ce que l'on peut en faire, je renvoie à des travaux contemporains, notamment un ouvrage qui vient de sortir d'un collègue, Alan Denneville, qui est vraiment spécialiste sur ces questions-là. Et donc, en fait, je pense que c'est des sujets qui sont tellement vastes, et si je me permets de citer d'autres personnes, c'est que, en fait, ça nécessite aussi de s'en saisir à des échelles particulières. Donc comprendre ce que c'est que la contre-enquête ou l'enquête à partir de ces données, ça nécessite d'aller s'informer précisément sur ces questions. Sur la question de l'interopérabilité en fait, des services en ligne, et aussi comment ça peut organiser des modes de contrôle spécifiques, notamment à des fins institutionnelles, et pas que policières, ou policières, et aussi à des fins de criminalisation de certaines postures militantes, par exemple. Je pense notamment à l'association de la Quadrature du Net, qui fait un travail de fond depuis des années là-dessus, et qui sensibilise, en fait, sur, justement, l'interopérabilité, par exemple, entre la CAF et certains services de police qui vont, en fait, aller croiser les données à des fins d'intimidation, notamment. Donc ça, c'est des choses qui existent et qu'il faut prendre en compte. Moi, à l'échelle où je suis intervenue, on va dire, à ma façon, dans tout ce système qui est tellement colossal que, enfin, faut bien être à plusieurs, en fait, peut-être aussi pour essayer de le comprendre et avoir différents champs d'intervention à différents temps, avec pas forcément exactement les mêmes façons de faire, pas les mêmes façons de sensibiliser. Je dirais que c'est un peu les espaces de la banalisation et du spectacle un peu ordinaire de ces images. Comment, là, elles viennent dans des endroits où elles peuvent nous charmer aussi. Parce qu'elles ont des charmes, en fait, ces images. Comme ces caméras, elles ont un charme. Et donc, avec la question aussi animale, disons que là, moi, je vais aussi appuyer un autre endroit qui est aussi à la jonction avec d'autres usages, notamment scientifiques, qu'il est important, en fait, de traiter ensemble avec ces questions qui sont politiques, qui prennent en considération toutes ces dimensions sociopolitiques et économiques aussi.
Justement, par rapport à la question animale, vous parliez des techno-surveillances qui peuvent nous charmer. Je pense aux vidéos qu'on trouve d'animaux qui sont... on a l'impression regardé par la caméra ou qui la regarde, que ce soit dans plein jour ou dans la nuit, comme on peut voir sur votre couverture de votre essai. Qu'est-ce qui raconte justement de cette surveillance, ces animaux?
Alors, ils peuvent raconter plein de choses. Alors, ça dépend. Par exemple, si je vous raconte l'histoire d'un golden retriever qui s'appelle Maru, qui était donc sur l'île de Jukdo en Corée du Sud. Lui, il a été très populaire et on me l'a partagé beaucoup de fois. Donc, il avance avec, on va dire, une allure assez enjouée. Et donc, on l'a accusé un peu de photobombing. Les posts ont circulé en disant « Oh là là, il a photobombé toutes les images de Google Maps ».
Photobombing, c'est quoi ?
Photobombing, c'est cette idée de, vous savez, vous venez vous insérer dans une photo, vous n'étiez pas censé être le sujet au centre de l'image. Donc, vous venez gâcher, troller.
Ah, on vient se taper l'incruste, quoi.
Exactement. Okay. On peut le résumer comme ça. Donc, a priori, ce golden aurait tapé l'incruste en fait sur les photos de Google Maps.
Okay.
Donc déjà ça m'a intriguée. Et donc en fait, qu'est-ce que ça nous raconte, ça, par exemple, de la technosurveillance? Ça, c'est juste un cas. Ça raconte que en fait, c'était pas Google Maps, c'était Kakao Map, qui est un autre service de cartographie en ligne coréen. Donc ça veut dire que on a tellement normalisé que ce type d'image doit venir d'un seul et même acteur qu'on ne pense même plus en fait à interroger la source de l'image. Ça raconte aussi que ce chien, on l'a accusé en fait de taper l'incruste, alors qu'en fait c'est littéralement son île où il vit en fait avec. Ils ont une seule famille à habiter l'île, et en fait de temps en temps les touristes et ces personnes viennent sur l'île visiter, et lui, comme il aime bien la présence des humains a priori, eh ben il se balade avec eux. Donc là déjà ça peut inverser un rapport. Donc ça c'est une première histoire. Si vous voulez après on peut développer. Vous me dites, je peux vous raconter d'autres histoires selon.
Oui, bah, je pense, moi, celle que j'ai adorée, c'est l'histoire des goélands.
Ouais.
Alors, en bref, ce sont des goélands qui, lors d'une manifestation, attaquent des drones. Mm-hmm. Et alors, qu'est-ce que ça raconte lorsque les humains luttent et que les animaux luttent à des endroits différents, la terre et l'air pour les autres? Qu'est-ce que ça raconte du pouvoir de se dire « Ah, mais zut, en fait, il y a peut-être des animaux qui vont attaquer il y a peut-être des animaux qui vont attaquer des drones, ces drones qui vont attaquer des humains en chutant. Enfin, qu'est-ce qu'ils viennent... J'ai l'impression que, du coup, ces goélands, ils viennent dans un interstice inattendu.
Mmh. Eh bien, disons que donc, les goélands, comme on va dire... tout mon petit bestiaire où ça va aussi avec les vaches, les moucherons, les chiens et d'autres, hein, d'autres configurations. Les goélands, c'est un cas assez particulier parce que donc il faut resituer dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes en France. Et donc là, on se situe à Paris en juin 2019. Et donc, il y a une partie des manifestantes et des manifestants dans la rue et l'utilisation d'un drone. Donc, alors illégal, hein, donc vaguement enfin, encadré par un décret. Et donc, avec déjà en fait la sensation de quelque chose de nouveau vient encadrer les manifestations. C'est nouveau, cette présence. Et puis, tout d'un coup, des clameurs qui surviennent avec des gens émerveillés. Tout d'un coup, les goélands, donc, que globalement les personnes vont avoir tendance à appeler les mouettes, on ne va pas leur faire un procès de précision, mais pour moi c'est intéressant ensuite dans mon travail d'aller repréciser justement okay. que c'est des goélands et pas des mouettes, vont attaquer les drones de la police. Et donc la question c'est qu'est-ce qui se passe ? Une clameur, les mouettes avec nous. Toutes les mouettes détestent la police. C'est ce type en fait de slogans qui vont être pris. Et donc je vous la fais courte, mais ça va devenir un motif de la lutte parce que ça ne va pas se produire qu'une seule fois, mais à plusieurs reprises sur plusieurs années. Mon intérêt en enquêtant là-dessus, c'est donc effectivement non seulement de comprendre, de voir la diffusion, on va dire un peu, de la figure symbolique du goéland comme motif de la lutte, dans l'union, dans la lutte, il y aurait quelque chose en commun. Et donc d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est en fait cette chose en commun, qu'est-ce que ça dit de « il y a un élément dans notre environnement qui nous surveille d'une façon particulière et qui nous dérange, c'est quoi ce qui nous perturbe là-dedans ?» Et donc, dans quelle mesure il n'y aurait pas quelque chose en commun entre ce qui perturbe le goéland et ce qui perturbe, on va dire, les humains aussi, qui sont a priori en train de contester la présence du drone. Donc ça, ça peut être une des dimensions. Et puis ensuite, en fait, en étendant et en prêtant attention véritablement à l'altérité que sont les goélands, avec ce qu'il peut y avoir comme affinité hein, et compagnonnage, c'est de se rendre compte qu'il y a des questions de nidification, mais pas que ça. En fait, les goélands, dans leur façon de faire groupe, mais aussi d'être individu, il y en a certains qui sont connus pour des éléments avec plus ou moins de patience ou d'impatience, plus ou moins d'agressivité. Et du coup, ils ne tolèrent pas forcément une présence inconnue dans leur espace vital, parce qu'eux, ils habitent a priori là-haut, non sans friction au quotidien, en demeurant avec des habitants, habitantes de la ville, parce que c'est une question à part entière. Mais en tout cas, ils visibilisent quelque chose, un problème qui est fondamentalement sociopolitique.
Tout de suite, une page musicale, vous écoutez Left Outside Alone de Anastasia.
Can't find it. Thought you were sent from up above, but you and me never had love. So much more I have to say. Help me find a way. And I wonder if you know how it really feels to be left.
Fantasy.
Just Outside Alone de Anastasia. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris en compagnie de Pauline Chasseret-Peraldi qui nous parle de vidéosurveillance.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Alors, on parlait de ces goélands tout à l'heure qui attaquaient des drones lors d'une manifestation. Est-ce que on peut apprendre? En fait, est-ce que j'ai l'impression qu'on les voit plus, ces technologies, parce que moi, des fois, je m'amusais, mais j'ai l'impression que ça fait déjà plus de 10 ans quand je faisais ça. Je m'amusais à voir les caméras qui étaient dans les rues, où je mettais des petits autocollants sur mon ordinateur. Ben là, en face de moi, il n'y a plus d'autocollants. Enfin, je crois que je prêtais attention, en tout cas, à ces caméras dans notre quotidien. J'y prête plus du tout attention maintenant. Et est-ce que les animaux viennent nous apprendre soit à regarder à nouveau ou à lutter? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des leçons à apprendre des animaux aujourd'hui par rapport à la technosurveillance ?
Eh bien, je dirais qu'il y en a, effectivement. Alors, est-ce que c'est des leçons ou est-ce que c'est des pratiques à mettre en place ? Ça, c'est peut-être pas à moi de déterminer là en l'état. Mais par exemple, si on considère les oiseaux, il faut savoir que... on parle du cas des drones de la police, qui a visibilisé en fait notamment des politiques troubles autour de la diffusion de ces technologies. Mais par rapport à des projets d'héliport à Paris, de taxis héliportés, la question des oiseaux a permis en fait de contester ce projet. Il y a aussi des espaces où les espèces protégées permettent en fait d'éviter... la construction d'une infrastructure, le déploiement de telle ou telle chose. Après, il faut faire attention aussi à ne pas tomber que dans la logique des espèces protégées et des espaces protégés, parce qu'on ne peut pas tout mettre en fait, sous ce nom-là. Mais la question, c'est de se rendre sensible, en fait, peut-être, à la pluralité des formes de vie qui nous entourent et de comment on a envie de s'y rendre sensible. Et là, du coup, ça amène à un des autres versants qui est celui même de la domesticité. Parce que souvent, parfois, on va avoir une volonté de protéger des espaces qui nous semblent très éloignés. Mais qu'est-ce qui se passe avec le proche ?
Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que nos espaces intimes sont protégés aujourd'hui de la technosurveillance ?
À mon sens, non, pas du tout. Et justement, quelque part, les animaux sont une façon de faire accepter ces technologies dans nos espaces intimes. Et donc là... je vais vous parler d'une image qui vous est certainement autrement familière, et peut-être que vous ne l'avez pas identifiée sous ce nom-là, mais qui sont ces images qu'on trouve beaucoup sur les réseaux sociaux, en l'absence de leur maître, un chien qui va ronger un objet, et donc les maîtresses et maîtres qui vont dire « non, lâche ça tout de suite », ou un chat qui va faire une bêtise, ou un ours sur le porche d'une maison. Et en fait, tout ça, qu'est-ce que ça raconte ? Ça raconte qu'il y a une diffusion des caméras domestiques, en fait. Et qui filme ? Pourquoi ? Dans la peur de quoi ? Qu'est-ce qu'on veut surveiller ? Qu'est-ce qu'on veut protéger, en fait ? Donc là, on voit bien qu'il y a des politiques différenciées de notre relation, on va dire, à l'autre animal. Et puis, en fait, derrière, il y a souvent des entreprises qui ont des politiques assez troubles au niveau des données. Et donc là, je peux vous parler de la Amazon Echo, où vous devez connaître, hein, entre Alexa, Amazon Echo, donc toutes ces enceintes portatives à la maison qui permettent de faire des requêtes. Eh bien, les petites caméras qui permettent souvent d'avoir ces vidéos très populaires en ligne, c'est souvent de l'entreprise qui s'appelle Ring, qui appartient également à Amazon. Et donc là, je vous invite fortement à aller découvrir un peu les rouages de cette entreprise, notamment ces entrelacement avec le don de données en dehors de toute procédure judiciaire dans le cadre d'enquêtes policières, notamment. Donc ça, c'est principalement aux États-Unis. Hein. Mais en fait, il y a de la publicité ces derniers mois, beaucoup pour Ring, dans les rues de Paris où on est là actuellement. Et si vous allez sur leur page Instagram, une grande partie des vidéos qui sont mises en ligne pour la promotion de leur technologie, c'est des vidéos d'animaux.
Mais alors du coup, est-ce qu'on pourrait dire que notre intimité, en tout cas nos images dans notre intimité, sont une source de capital ?
Tout à fait, oui.
Ça, on peut se le dire qu'à chaque fois...
Il faut le dire, je pense qu'il faut vraiment le digérer.
Chaque fois qu'on est... Donc du coup, les bonnes pratiques. Donc déjà, lire votre essai « L'image indomptée, animaux et technosurveillance ». Première bonne pratique. Et ensuite, les bonnes pratiques pour se dire comment chez soi, je peux encore essayer de garder un chez-moi finalement et un intime qui n'est pas potentiellement une image qui peut sortir par je ne sais quelle caméra qu'il y a chez moi. Je pense à l'ordi, au téléphone qu'on a souvent, mais en plus là, il y a les petits robots également.
Oui, tout à fait. Alors bah, déjà, peut-être toujours de se poser la question à soi-même avant d'aller même dans la technicité, de quelle nécessité ? Pourquoi je fais ça ? D'où survient ma peur ? Qu'est-ce que je pense vraiment en fait sécuriser en faisant telle ou telle chose ? Finalement, si je ferme cette porte-là et que je veille bien à cet endroit, est-ce que je suis sûre qu'il n'y a pas d'autre chose qui rentre par un autre biais ? Donc ça, déjà, de se sensibiliser un peu et de se redemander un peu qu'est-ce que je partage, qu'est-ce que je filme, à quel endroit, pourquoi j'ai toujours besoin même éventuellement de filmer, d'être informée sur tout ce qui se passe dans mon environnement intime et extérieur. De se sensibiliser aussi à l'espace public comme un espace qui est lié à nos espaces intimes. Et puis après... pourquoi pas, si on a plus de volonté, suivre donc effectivement les différents collectifs qui font aussi des ateliers autour des pratiques. Et je pense notamment vraiment sur la question que vous posez à un collectif de recherche qui s'appelle Limites Numériques. Et donc ils ont une super newsletter et en plus de partager des billets qui sensibilisent, informent sur par exemple comment ça se fait que les outils d'IA se sont déployés à une vitesse folle dans nos logiciels, comment assainir un petit peu les politiques de données sur nos ordinateurs, nos téléphones. Enfin bref, tout un programme assez vaste, très instruit et facilement partageable. Et je peux que vous enjoindre à aller les voir, à aller voir ce qu'ils font et à vous informer si c'est des questions auxquelles vous êtes un peu sensible.
Merci beaucoup Pauline Chasseret-Peraldi pour cette interview très intéressante.
Merci
Farah de l'avoir interviewée. Il est temps du Flash Info de Louise.
Merci beaucoup.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Bonsoir à tous, bonsoir Rania. On commence tout de suite avec Inopoco Devez, Miss Tahiti, élue Miss France dans la nuit du samedi 6 au dimanche 7 décembre. Elle a 23 ans, elle est diplômée en psychologie et est devenue la 96e Miss France. Cette nouvelle élection ranime les débats autour du concours de beauté. En effet, depuis plusieurs années, des associations telles Causer le féminisme, qui avaient intenté une action en justice contre la société, réclament la suppression du concours. Au même moment, toujours en France, sur la ligne ferroviaire reliant Toulouse et Montauban, près de 380 passagers ont passé la soirée dans un train à l'arrêt. Un kilomètre après son départ, déjà retardé de la gare Matabio, le train s'est arrêté et les passagers sont restés bloqués 4 heures. Les vidéos se sont multipliées sur les réseaux sociaux, montrant la montée des tensions entre certains passagers et le mal-être d'autres qui ont été victimes de malaise avant d'être évacués par les pompiers. Ce vendredi 5 décembre, aux États-Unis, à Washington, Donald Trump a été décoré pour, je cite Gianni Infantino, président de la FIFA depuis 2016, ses actes exceptionnels et extraordinaires pour promouvoir la paix et l'unité dans le monde entier. Donald Trump s'est vu remettre le premier prix de la paix de la FIFA sur la scène de la cérémonie de tirage au sort de la Coupe du Monde 2026. Une revanche pour celui qui n'avait pas remporté le prix Nobel de la paix, en rappelant que les deux hommes sont amis de longue date et que cela entrave forcément l'obligation de neutralité de la FIFA. Enfin, côté culture, je souhaiterais vous parler de Netflix qui a annoncé ce vendredi 5 décembre son accord de rachat du studio Warner Bros. Pour la modique somme de 83 milliards de dollars. Aujourd'hui, c'est le groupe Paramount qui a présenté sa contre-offre de rachat, valorisée 108 milliards de dollars. Si jamais l'accord était conclu entre Netflix et Warner Bros., on peut se demander quel impact ce rachat aurait sur le cinéma.
Merci beaucoup Louise. Tout de suite, vous écoutez Animals de Maroon 5.
Baby, I'm praying on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, moles. Maybe you think that you can hide. I can smell yourself for miles. Just like animals, animals, like animals, moles. Baby, I'm so what you try to do to me? It's like we can't stop, we're enemies. Pretend
C'était Animals des Maroon 5. Nous vous retrouvons, chers auditeurs, sur le canal 93.9 FM pour parler de l'entartage sur un événement qui s'est passé à Vesoul avec Béatrice.
Et oui, bonjour tout le monde. Donc, le 25 novembre dernier, Bardella était de passage à Vesoul pour la mythique foire annuelle, la Sainte-Catherine. Invité d'honneur par sa squad haute-saunoise depuis les deux dernières années, excusez-moi, la présence du président du Rassemblement National n'a pas plu à tout le monde là-bas. Vers 17h, alors que Bardella était venu donner une série d'autographes aux fans venus en masse, un jeune lycéen finit par sortir du troupeau et enfarine d'un coup franc le héros de la journée. Une occasion en or pour le donneur de leçons, probablement un manque d'éducation des parents va finir par lâcher le président du RN. Pas vraiment, Jordan, puisque ce jeune lycéen est apprécié par tous ses profs pour son sérieux et son respect. Et le petit doigt raconte qu'il envisagerait même de passer les concours de l'admission des grandes écoles Sciences Po. Et puis, il faut tout de même rappeler que l'enfarinage, tout comme l'entartage, sont des métiers à part entière, précisa un jour Noël Godin, célèbre pour ses entartages en série. Plus connu sous le nom de Georges le Gloupier, Noël Godin, vivant à Liège en Belgique, a fait ses jets à la tarte à la crème, une marque de fabrique. En 1995, même la critique salue ses gestes en lui remettant le Grand Prix de l'humour noir, suivi du Prix de la dent dure en 1996, après s'être entartré lui-même. Alors, autodérision belge que peut-être les Français auront du mal à comprendre, soit. Parmi ses cibles, de nombreuses personnalités connues. Bernard-Henri Lévy, Bill Gates, Doc Gynéco, un Premier ministre belge, Patrick Bruel, Godard, Sarko et tant d'autres. Alors, à une époque où l'humour noir savait encore trouver sa place sur une étagère, peu de victimes s'en sont vraiment prises à Georges le Gloupier, à l'exception de BHL. Vexé jusqu'à la moelle par le goût de sa tarte reçue en 1985, l'écrivain répondra du tac au tac en flanquant rudement le Gloupier à terre et finit par lâcher, pendant que Godin est plaqué au sol par des agents de sécurité, « Lève-toi vite ou je t'écrase la gueule à coups de talon ». Une réponse glaçante. Mais alors, d'où vient cette tradition d'entartrer ou d'enfariner des personnalités publiques? Selon le Figaro, cette tradition aurait fait surface en 1927 dans La bataille du siècle, un court-métrage muet réalisé par un certain Clyde Bruckman. Appelé aussi attentat pâtissier, l'entartrage se veut comme une condamnation publique par le ridicule. En général, l'entartreur choisit de commettre son acte lors d'un événement de grande portée, avec une victime connue aux positions plutôt controversées que l'entartage vise à ridiculiser. Pour les pâtissiers de la deuxième heure, l'entartage ne relève pas de la violence physique, car il ne cause aucune incapacité temporaire de travail. Ça, c'est Godin qui le dit. Toutefois, il faut prendre conscience que l'art de l'entartage n'est pas officiellement reconnu dans la charte des métiers et que des peines encourues peuvent être salées. Garde à vue, emprisonnement, 500 euros d'amende ou 45 000 euros pour la Voix du Nord, les peines peuvent varier en fonction du profil du pâtissier. En attendant, c'est Noël Godin qui doit être content, car rencontré il y a quelques années en Belgique, ce professionnel se plaignait à l'époque de ne pas trouver de remplaçant après sa retraite. Eh bien, c'est chose faite, la profession n'a bientôt plus de plomb dans l'aile. Alors, à toutes les personnes qui cherchent du boulot, envoyez vos CV, ça recrute en pâtisserie.
Merci Béatrice, la matinale continue avec le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Vladimir, tu nous présentes l'association étudiante Enquête d'Histoire ayant pour but de rédiger et publier des articles sur l'histoire en ligne.
Merci beaucoup Rania. Oui, en effet. Alors aujourd'hui, on est ravis d'accueillir l'association Enquête d'Histoire avec Anna, sa présidente. Et derrière, il y a tous ses collègues, Alix, Alice et Cyril, qu'on salue et à qui je fais coucou. L'association Enquête d'Histoire, comme tu l'as dit, c'est une association étudiante de vulgarisation et de diffusion d'articles sur la thématique de l'histoire et de la pratique de l'histoire publique. Anna, est-ce que tu peux présenter rapidement cette association, comment elle est née et ce qu'elle fait ?
Oui, bonjour. Notre association, c'est une association qui est très récente. On a créé l'association en octobre, donc à l'UPEC, à l'Université Paris-Créteil. Notre initiative, en fait, c'était avec mes camarades d'histoire publique, donc on est en Master 2 d'histoire publique. C'était vraiment de mettre en pratique, en fait, nos acquis de la formation et de pouvoir rendre accessible l'histoire à tous. Et donc, on a pensé que faire un magazine d'histoire, c'était un bon moyen déjà pour les étudiants qui le souhaitaient d'écrire sur des sujets qui les intéressent, qui les passionnent en histoire, et ça de façon assez libre, parce qu'on est, on les laisse vraiment assez libres sur les sujets qu'ils abordent, et ça permet de voir aussi tout... plein de sujets différents, en fait, puisque tout le monde a des passions très différentes en histoire. Et puis, pour ceux qui sont un peu moins familiers avec l'histoire au sein de l'université, de rendre cette matière peut-être un peu plus accessible et pas seulement réservée à un public d'historiens ou de spécialistes.
Du coup, tu parlais de ce master-là, qui est un master dont on n'entend pas forcément beaucoup parler, qui est ce master d'histoire publique. C'est un master qui, je crois, est un master très récent, qui a été créé il y a à peu près 10 ans, on en parlait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire à peu près en quoi ce master-là se distingue d'autres types de masters en histoire, un peu plus spécialisés sur des domaines?
Oui, alors le master du coup de Créteil, c'est le premier en France, mais il y en a d'autres maintenant qui sont en train de se développer partout en France. Et la distinction déjà, c'est que nous, c'est un master qui est professionnalisant. Donc par rapport à des masters d'histoire en recherche, par exemple, on va avoir beaucoup plus de cours très pratiques. Donc notamment nous en M2, plus qu'en M1, mais en M1, on a quand même un projet à faire, un projet tutoré. Mais voilà, on a des cours très pratiques. Par exemple, on a des cours de podcast, on a des cours de création de séries, d'écriture journalistique, pour nous aider vraiment à aborder l'histoire de manière très différente, en fait.
Donc c'est vraiment dans une espèce d'optique de vulgariser le champ scientifique de l'histoire, qui parfois peut être un peu difficile, dans lequel il est un peu difficile parfois de rentrer. Peut-être inspiré aussi par tous les, on va dire, les grands créateurs de contenu, si j'aime pas du tout ce mot-là, mais qui ont vraiment vulgarisé l'histoire auprès du grand public, sur YouTube par exemple, ou du coup sur les chaînes. Et donc ça, c'est vraiment votre master, il se spécialise vraiment dans ça, dans le fait de rendre l'histoire intelligible et compréhensible pour tout le monde.
C'est ça, tout à fait. Même, comme vous disiez, YouTube ou les podcasts, même on nous apprend à faire des cours de jeux vidéo, donc puisqu'il y a aussi beaucoup d'histoire dans les jeux vidéo. Donc
Assassin's Creed,
vraiment,
notamment, j'imagine.
Ouais, voilà, par exemple, tout à fait.
Beaucoup d'historiens, ouais.
C'est ça. Et par exemple, nous, justement, avec Enquête d'Histoire, on est allé à Blois, où ils font un festival d'histoire, et on a pu notamment faire un entretien avec Yann Bouvier, Yann tout court, sur les réseau. Et lui, il nous a parlé, justement, il est vraiment spécialiste, un peu vulgarisateur. Il nous a parlé de sa pratique de l'histoire. Il est professeur aussi au master d'histoire publique, mais de Albi. Et il nous a parlé vraiment de ça. Donc c'est quelque chose qui est très actuel, en fait, maintenant.
Oui, c'est passionnant d'essayer d'aborder l'histoire justement de cette manière-là, justement pour former des étudiantes et des étudiants à essayer de transmettre là le plus possible. D'autant que le rapport à l'histoire est d'autant plus important aujourd'hui, notamment avec des bouquins de grands historiens, Johann Chapoutot sur la période nazie notamment, qui était sorti pour expliquer que la période dans laquelle on est aujourd'hui a quand même des similitudes, et réussir à vulgariser tout ça pour faire prendre conscience, on va dire, au grand public de toutes ces difficultés, c'est d'autant plus important. Mais est-ce que du coup, quel est le rapport, c'était un peu une question que je me posais, sur quel est le rapport avec les historiens et les historiennes un peu plus spécifiques dans certains domaines par rapport à ce nouveau master qui arrive? Est-ce qu'ils accueillent avec bienveillance cette envie de vulgarisation, ou est-ce qu'il y en a qui sont peut-être un petit peu réticents à l'idée de dire du coup ça veut dire qu'on va faire de l'histoire généraliste et que c'est pas forcément, enfin qu'est-ce que vous vivez vous dans ce master?
Il y a quand même pas mal d'historiens qui restent réticents, peut-être parce qu'ils prennent peut-être pas encore assez au sérieux cette discipline. Je pense que c'est à nous aussi, vu que, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose d'assez récent, de montrer que c'est aussi sérieux. Et c'est pour ça que, même avec Enquête d'Histoire, par exemple, on est toujours très attentif à garder cette rigueur et cette discipline qu'on nous apprend en cours, et de vraiment continuer à faire tout à base de sources, de vraiment pas... le but, c'est de vulgariser, de rendre accessible, mais quand même de se baser sur des faits et de pas raconter n'importe quoi. Mais oui, c'est sûr que des historiens ont peut-être l'impression que c'est pas une discipline assez sérieuse. Pour certains, je pense que c'est un peu le cas.
Ouais, c'est un gros enjeu, de justement se servir aussi de leur travail à eux, et peut-être de les intégrer aussi dans tout ça, c'est super intéressant en tout cas, et c'est super important, je pense, pour le champ universitaire en général. Et vous avez du coup une actualité donc, sur votre site, je rappelle, donc, c'est enquête d'histoire, toutattaché.fr.
Avec l'accent sur le E, faut pas oublier.
Vous avez mis l'accent sur voilà. L'URL. Ah, voilà. C'est la première fois que je vois un site avec l'accent sur l'URL, c'est fou. Et du coup, vous avez aussi une actualité du coup, en janvier, puisque vous allez sortir une revue papier. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus?
Ouais, tout à fait. Bah, nous, vraiment, l'objectif, donc c'est quand même assez récent, mais l'objectif de base, c'était vraiment de faire, de rendre le journal format papier. C'est un des objectifs qu'on s'est fixé. On voulait faire un semestriel, en fait, donc essayer de publier deux fois par an. Et là, voilà, on a réussi à avoir les fonds nécessaires pour pouvoir donc faire un journal, imprimer un journal en janvier. Ce premier numéro, il sera distribué à l'UPEC, donc à la fac de Créteil. Nous, on va le distribuer gratuitement. Le but, c'est vraiment qu'il soit accessible, que les étudiants puissent voilà, apprendre à connaître cette association et à apprendre de l'histoire. Et c'est pas du tout de commercialiser ça. Et puis après, bah, si sur les réseaux sociaux aussi, s'il y a des gens qui sont intéressés, qui sont pas forcément à l'université de Créteil, ils peuvent toujours nous suivre sur Instagram. Donc c'est enquête.d'histoire, pardon. Et donc nous demander si jamais ils veulent un magazine papier, on peut toujours se débrouiller. Et voilà, l'idée c'est de mettre ça sous papier pour qu'aussi bah, les étudiants qui écrivent aient une petite fierté. C'est toujours, toujours bien d'avoir un papier et quelque chose de matériel. Et c'est, je trouve, ça permet de rendre ça un peu plus sérieux. Des fois, ça, on nous prend peut-être un peu plus au sérieux si on a un magazine papier que ouais. Juste un site internet. Et voilà. Et après, on aimerait bien aussi sortir un deuxième numéro en collaboration avec le Festival d'Histoire Populaire qui a lieu à Créteil. Et normalement, ça devrait se mettre en place. Cette année, le thème du festival sera le corps. Et donc, on pourra faire un magazine spécial sur le corps.
D'accord. Et c'est un magazine, du coup, qui va avoir des thématiques régulières ou qui reprend un peu des articles de plein de différentes périodes historiques, de plein de différentes autrices et auteurs. Et donc, du coup, c'est un peu ça l'objectif ou...
Oui, on aimerait bien quand même... Enfin, en fait, ça va dépendre, je pense. On peut faire des numéros spéciaux avec des thématiques particulières et puis des numéros un peu plus... avec un peu plus des articles divers et variés. Comme je vous ai dit, donc, l'idée, c'est vraiment que chacun écrive sur ce qu'ils aiment. Et vraiment, sur toute période confondue, on part de l'Antiquité à l'époque contemporaine. On a fait aussi des éditions... on a fait une édition spéciale pour Halloween, par exemple, avec vraiment des articles... un peu plus, sur des thématiques un peu plus horrifiques. Mmh. Et voilà.
J'ai vu l'article sur Vlad l'Empaleur, qui est sorti récemment.
Tout à fait.
Ouais, donc essayer de suivre un peu les différentes thématiques, essayer de rendre ça aussi toujours un petit peu ludique et accessible pour tout le monde.
Mais, c'est ça.
Et y a cette notion-là que je trouve très intéressante, c'est que du coup, vous dépendez du coup de ce master-là de l'Université Paris-Créteil. Est-ce que ce master-là existe dans d'autres universités parisiennes ou pas forcément? Et est-ce que du coup, la diffusion de cette revue-là, vous l'envisagez peut-être à terme dans d'autres universités parisiennes?
Pour l'instant, le master d'histoire publique, c'est dans le secteur de Paris, c'est vraiment que à Paris-Est. Donc nous, vu qu'on est vraiment tout récent, pour l'instant la diffusion on l'envisage que à Créteil, mais oui, l'idéal ce serait de diffuser un maximum quoi, et que le plus de personnes possible, si des gens sont intéressés, de pouvoir vraiment distribuer un maximum de personnes possible, effectivement.
Bah, on vous souhaite en tout cas un très très bon courage en tout cas pour cette belle aventure. Dernière petite question, si on a quelques petites secondes, est-ce que tu aurais des recommandations de sources de vulgarisation historique qui pourraient intéresser nos auditrices et nos auditeurs, de gens sur les réseaux qui font des choses qui pourraient te sembler intéressantes aussi, en plus bien entendu du travail que vous menez, mais qui pourraient, en tout cas qui vous anime et vous pousse à aller en avant en tout cas et vous inspire?
Je te dirais peut-être Yann tout court, c'est vrai que moi je suis pas mal. Il y a Nota Bene aussi qui est assez connue.
Nota Bene qui est très connue, ouais.
Manon Bril aussi, je sais qu'il y a pas mal de choses. Après, Ouais, il y a plein. Ça se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de vulgarisateurs. Là, de tête, comme ça, c'est les noms qui
me reviennent. Il y a de plus en plus de festivals aussi partout en France qui viennent vraiment faire de l'histoire réelle et vivante dans des lieux un peu symboliques de l'histoire de France et qui viennent faire un peu peut-être le contre-pied aux grandes émissions télévisées qu'on connaît avec ce cher Stéphane Bern. Je pense qu'on adore, mais c'est vrai que c'est un peu...
Ça change un peu.
Ça change un petit peu et ça redynamise un peu la chose. Eh bien, écoute, merci pour tout, Anna. Merci d'avoir été là.
Merci.
Je rappelle du coup votre association Enquête d'Histoire. Donc, Enquête d'Histoire avec un E accent circonflexe tout attaché .fr et votre Instagram enquête.d'histoire. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci Vladimir, merci Anna. Vous écoutez Tears Dry on Their Own de Amy Winehouse. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch. I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many real things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't upgrade myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. Ain't no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. C'était le classique Tears Dry on Their Own de Amy Winehouse. C'est bientôt la fin de cette matinale, mais avant, je donne la parole à Fabien.
Oui. Bonsoir. J'ai un peu pris le cours. Eh ben moi, je vais vous parler des marchés de Noël. C'est d'actualité. On est au début du mois de décembre. Hein, donc chaque année, durant le mois de décembre, Paris accueille donc de nombreux marchés de Noël dans différents quartiers. Des centaines de chalets en bois décoré vous attendent avec de nombreuses idées de cadeaux, des douceurs à grignoter, du vin chaud et de nombreux articles d'artisanat dans l'esprit des fêtes de fin d'année. Et je suis allé à la Défense. C'est dans un cadre féerique et une ambiance unique que le plus grand marché de Noël d'Île-de-France revient jusqu'au dimanche 28 décembre 2025. Et voilà, ça c'est ce qu'on vous vend et la réalité elle est un peu tout autre. Je trouve, pour moi, un marché de Noël c'est avant tout des artisans, quelques stands de nourriture et surtout des moments magiques et pourquoi pas des découvertes surprenantes. Les trucs sympas, il y a une patinoire mais attention, il faut penser à réserver avant d'y aller sinon vous ne rentrerez pas. Il y a un secteur avec de vrais artisans, deux grands chalets, l'un réservé au Canada où vous trouverez tout ce qui fait le charme de ce pays, du sirop d'érable au pain d'épices en passant par des bières du terroir et des spécialités culinaires. À côté, un restaurant vous permettra de découvrir ou redécouvrir leur spécialité et de voyager sans bouger de Paris. De l'autre côté, direction l'Alsace, avec toutes les spécialités de ce pays. Le village des artisans est bien également, mais sur une petite surface malheureusement. Vous y découvrirez des choses inattendues, des tableaux lumineux, des santons réalisés à la main, des écharpes et des objets en tout genre, où chacun peut trouver quelque chose à son goût. Vous pourrez aussi rencontrer le Père Noël et la Mère Noël, nouveauté de l'année sans doute, voilà. En dehors de ça, tous les stands sont des stands de nourriture. Quelques-uns ne sont pas mal, comme celui du Canada par exemple, mais pour le reste, on se croirait à la foire ou à la fête foraine. J'aime beaucoup les marchés de Noël, mais sur celui-ci, la magie n'a pas opéré. Sans doute trop banal, trop de stands de nourriture à mon goût, et pas assez de choix et de créativité. Et si vous avez envie d'un marché de Noël comme au temps des seigneurs et des chevaliers, la ville de Provins nous convie à un week-end féerique avec sa 14e édition du marché médiéval de Noël, les samedis 13 et dimanche 14 décembre 2025. Dans le 77, cette cité médiévale, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, offre un cadre authentique qui nous transporte directement au Moyen-Âge pour célébrer les fêtes comme autrefois. Pour cette 14e édition, donc le marché médiéval de Noël de Provins nous embarque dans une véritable machine à remonter le temps, à l'époque où les artisans faisaient revivre des savoirs presque oubliés. On se régale en admirant les démonstrations artisanales de poterie, de forge ou encore de tissage, réalisées par des passionnés qui perpétuent ces traditions avec un soin et un amour du métier touchant. Ce marché médiéval se distingue vraiment des autres par son authenticité et son ambiance ludique qui nous happe dès l'entrée. L'hiver à Provins prend des allures de conte de fées grâce aux animations médiévales qui ont ce petit quelque chose de magique pour nous transporter dans le passé. Au programme, on trouve des spectacles de jonglerie qui nous scotchent, des combats de chevaliers qui nous font vibrer et des déambulations de musiciens jouant des airs médiévaux qui nous bercent. En soirée, le marché se pare de mille lumières créant une ambiance chaleureuse et féerique qui émerveille les petits comme les grands et même les plus blasés d'entre nous, comme moi par exemple. Dans la ville basse, le marché artisanal vous attend avec ses trésors, spécialités gastronomiques qui embaument, vins chauds qui réchauffent le cœur, bijoux qui brillent de mille feux et objets de décoration qui donnent envie de tout emporter. Sans oublier la présence du Père Noël, évidemment en personne, sa boîte aux lettres pour lui confier vos envies de cadeaux, une grande tombola auprès des commerçants et un calendrier de l'Avent qui ravit tous les enfants. On peut se réchauffer en dansant sur des airs traditionnels et en participant au banquet gourmand. Pour l'occasion, les tavernes installées sur la place nous régalent avec des mets typiques de l'époque, mêlant épices et produits locaux. On y trouve des bijoux délicats, des jouets en bois qui rappellent notre enfance, des céramiques magnifiques et plein d'autres articles faits main, dans une ambiance conviviale et festive qui fait du bien. C'est aussi le bon moment pour papoter avec les artisans, découvrir leur métier et leurs secrets et pourquoi pas s'initier à certaines techniques ancestrales. Et donc pour plus d'infos, vous pouvez aller sur noelmedievalprovins.com.
Merci Fabien, merci de nous avoir écoutés pour cette matinale du 8 décembre. Merci à l'équipe David, Farah, Louise, Vladimir, Béatrice et Fabien. Restez sur Radio Campus Paris. Tout de suite, c'est les voix du crépuscule et c'est en direct jusqu'à 21h. Et n'oubliez pas, on se retrouve demain à la même heure pour la matinale. Pièce détachée en direct sur Radio Campus. Merci.